VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, est rentré dans son pays au terme d'une hospitalisation prolongée en Grande-Bretagne. Le président Buhari, qui est âgé de 74 ans, s'est rendu en Grande-Bretagne il y a près de 2 mois. Son absence prolongée avait alimenté toutes les rumeurs dans la presse et sur les réseaux sociaux. La situation au Burundi a été discutée hier au Conseil de sécurité de l'ONU. Jamal Benoma, conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU, a souligné à cette occasion la fragilité de l'environnement sécuritaire dans le pays, un chômage endémique chez les jeunes en particulier et la détérioration de la situation humanitaire. L'ambassadeur du Burundi à l'ONU, Albert Shingiro, a tenu à relativiser les faits.
Je ne dis pas que tout est parfait au Burundi, mais je dis que nous avons enregistré des progrès tangibles en matière des droits de l'homme, mais que nous avons encore quelques défis à relever. Le meilleur moyen, ce n'est pas de continuer à mettre des pressions politico-diplomatiques sur le gouvernement du Burundi. Nous sommes sous pression depuis 2015. C'est le moment de tourner la page et de commencer de regarder devant nous et pouvoir effectivement évoluer en matière de protection des droits de l'homme. Donc nous sommes très engagés, nous attachons une grande importance à la question de la protection des droits de l'homme, mais certains cas ont été vraiment gonflés, exagérés. Je donne cet exemple des cas de disparition forcée. Vous savez, c'est un phénomène global qui touche pratiquement tous les pays, mais quand ils donnent des chiffres parachutés comme ça, c'est inquiétant parce que nous savons qu'il y a quand même quelques cas où des gens ont quitté le Burundi pour subir des entraînements paramilitaires dans les pays voisins. Ils ont été automatiquement déclarés personnes disparues.
L'ambassadeur du Burundi à l'ONU, Albert Shingiro. Plus d'un mois après le décès d'Étienne Tshisekedi à Bruxelles, sa dépouille continue à être au centre d'une polémique en RDC. Le frère cadet du défunt, Mgr Gérard Moulumba, explique pourquoi le site retenu n'a pas eu l'assentiment de tous.
J'ai trouvé qu'à Kinshasa, la base du parti, le parti de l'UDPS, et même tout le monde, pratiquement, je n'ai vu personne qui dit que cet endroit convient pour l'immigration. Donc, tout le monde était contre. D'ailleurs, moi-même, j'étais menacé parce que c'était moi qui avais fait la libération de Bruxelles. Alors, il disait qu'il n'était pas du tout d'accord, il faut absolument changer de place. C'est-à-dire que j'ai appelé l'autorité de la ville à qui j'ai exprimé cela, que la famille adhère à cette opinion, qu'il faut trouver une autre place. Mais nous attendons le retour du gouverneur, qui va arriver peut-être aujourd'hui ou demain, paraît-il, à Kinshasa. Alors nous allons de nouveau rediscuter d'une autre place. On ne peut pas maintenir la même date, non.
Le frère cadet d'Étienne Tshisekedi, Mgr Gérard Moulumba, évêque de Moueka dans le Kassai. Plus de 18 100 papiers ont déposé une demande de régularisation au Maroc depuis le lancement à la mi-décembre d'une nouvelle opération d'intégration par les autorités de ce pays. Lancée en 2013, une première opération du même genre avait abouti à la régularisation de 25 000 personnes en grande partie originaires d'Afrique subsaharienne. La plus haute instance judiciaire de Corée du Sud a entériné aujourd'hui la destitution de la présidente Park Geun-hye, emportée par un méga scandale de corruption qui a paralysé le pouvoir à un moment de forte tension régionale. La décision unanime des juges de la Cour constitutionnelle signifie qu'une présidentielle anticipée doit être organisée sous 60 jours. Son annonce a entraîné des échauffourées dans lesquelles 2 manifestants pro-Park ont trouvé la mort. La décision de la Cour va permettre à Séoul de tirer un trait sur un scandale qui l'empoisonne depuis des mois, alors même que la Corée du Nord multiplie les tirs de missiles et les menaces, suscitant l'inquiétude de la communauté internationale. Et les forces de sécurité turques auraient commis de graves violations lors des actions menées contre les rebelles kurdes depuis la fin du cessez-le-feu à l'été 2015, a dénoncé aujourd'hui l'ONU, estimant les déplacés entre 355 000 et 500 000. Dans son premier rapport sur le sujet, le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme détaille les allégations de destruction massive, de meurtre et de nombreuses autres violations graves des droits de l'homme commises entre juillet 2015 et décembre 2016 dans le sud-est de la Turquie au cours des opérations de sécurité gouvernementale.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les États-Unis et le Japon mènent des exercices navals en mer de Chine orientale, ont rapporté aujourd'hui les médias japonais, alors que la tension monte dans la région après les tirs de missiles menés lundi par la Corée du Nord. Ces manœuvres militaires interviennent quelques jours après le lancement par le régime nord-coréen de missiles, dont trois sont tombés dans les eaux de la zone économique exclusive du Japon, qui s'étend jusqu'à 200 000 nautiques, environ 370 km de ses côtes. Ici, aux États-Unis, les mesures migratoires du président Donald Trump commencent à affecter la vie dans les localités frontalières américaines et mexicaines. C'est le cas des villes jumelles de Nogales, qui, en dehors d'avoir le même nom, ont une longue histoire commune. Reportage de Raymond Taylor à Nogales. Il est repris ici par Lionel Gaïma.
Situé de part et d'autre de la frontière entre l'État américain de l'Arizona et celui de Sonoma au Mexique, Nogales, États-Unis, et Nogales, Mexique, sont séparés par une barrière métallique à un point de passage. Elles ont, au fil des ans, développé une riche histoire d'échanges culturels et commerciaux. Leurs maires se connaissent et leurs populations se fréquentent sans problème. Aujourd'hui, l'imminence de l'expulsion massive des sans-papiers mexicains par l'administration Trump fait planer un gros nuage sur ses bonnes relations. D'autant plus que dans l'état de Sonoma, Nogales, Mexique, est le principal centre d'accueil des immigrants expulsés, explique son maire, Remo Galindo. Nous enregistrons en moyenne 50 à 70 expulsés quotidiennement, mais ce chiffre risque de grimper pour atteindre 500 à 700 par jour, une situation que nous avons déjà vécue par le passé. Cela posera d'énormes problèmes, fait remarquer de son côté le journaliste mexicain Ortiz
Alonso.
Comment alimenter tous ces gens, comment leur trouver des emplois et comment les loger, car tout le monde n'est pas criminel. Ce sont des sans-papiers expulsés qui ont besoin de travailler, de survivre
ici.
Les relations commerciales bilatérales demeurent fortes au niveau local, mais les décisions du président des États-Unis pourraient les compromettre à affecter négativement les investissements américains au Mexique, s'inquiète le maire Temo Galindo. Son homologue John Doyle de Nogales, États-Unis, partage ses préoccupations.
There's a certain fear element out there still hovering up.
Il y a une certaine peur qui plane sur nos deux communautés, particulièrement du côté mexicain. Des gens en règle et qui peuvent franchir la frontière pour leurs achats se demandent maintenant s'ils seront intimidés ou même maltraités, si leurs papiers leur seront arrachés sans raison. L'incertitude n'est jamais bonne pour les affaires. Aussi, les maires de Nogales, États-Unis et Nogales, Mexique, tentent tant bien que mal de préserver leurs bonnes relations de travail face à des lendemains incertains.
Merci Lionel. Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, a déclaré hier que son organisation allait fournir aux entreprises technologiques un accès aux méthodes du piratage de la CIA afin de leur permettre de remédier aux failles de leur propre logiciel. Jacques Aristide.
Wikileaks a publié cette semaine des documents décrivant les méthodes secrètes de piratage de la CIA et des bouts de code informatique, mais elle n'a pas publié les programmes complets qui seraient nécessaires pour réaliser des cyberattaques contre des téléphones, des ordinateurs ou des récepteurs de télévision. Lors d'une conférence de presse hier via Facebook Live, Julian Assange a indiqué que Wikileaks allait travailler avec les fabricants d'appareils électroniques en leur donnant des détails techniques supplémentaires afin qu'ils puissent apporter des corrections pour gagner en sécurité. Le groupe Apple a réagi pour dire que les brèches de l'iPhone avaient déjà été colmatées. Assange affirme être en possession d'une foule d'autres renseignements sur le cyberarsenal de la CIA qui seront rendus publics prochainement. Sean Spicer, porte-parole de la Maison-Blanche, a déclaré hier que le président Donald Trump était très préoccupé par la publication d'informations secrètes qui affaiblit la sécurité nationale américaine. Le président, dit-il, est d'avis que les systèmes de la CIA sont obsolètes et doivent être modernisés.
Et puis le groupe État islamique continue de perdre du terrain à Mossoul face aux forces irakiennes et se trouve désormais également sous forte pression en Syrie où les États-Unis ont quasiment doublé leur présence militaire pour lutter contre les djihadistes. Jean-Roger Billon à ce micro, le prochain journal dans 50 minutes en compagnie de Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bon week-end et à dimanche nuit.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.